Bonjour Géraldine Mosselin.
Bonjour.
On rappelle que vous êtes directrice du musée départemental Saint-Antoine-l'Abbaye. La conservation est votre principale vigilance dans cette structure qui, justement, à l'occasion de cet été 2024, donne un nouvel écho des fonds et du musée de Saint-Antoine à travers l'opération portée par le département de l'Isère « Des habits et nous », dont le musée, finalement, par les faits, porte un très bel écho, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Alors déjà, en introduction, le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye est l'un des 11 musées du département de l'Isère. Et en effet, toute cette programmation culturelle qui a été inaugurée en quelque sorte au musée Hébert à la Tronche en février dernier, Des habits et nous, permet de faire écho à l'art de se vêtir à travers les périodes, les collections. Donc nous sommes plusieurs musées départementaux à participer à cette grande saison culturelle. Il y a également des artistes invités, donc des installations à voir aussi un peu partout sur le territoire, et également d'autres partenaires, d'autres musées qui ne sont pas des musées départementaux, qui appartiennent donc à d'autres collectivités ou qui sont associatifs et qui participent à cette très belle aventure.
Alors justement, c'est sur un fil que se déroule cette aventure du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, une belle collection qui donne aussi en mémoire des grandes heures autour des spectacles du Moyen-Âge. Hein. Saint-Antoine-l'Abbaye, c'est une manière de croiser un petit peu les choses entre vos fonds et puis l'opération.
Alors oui, c'est une manière de croiser les choses. D'une part, parce que effectivement, depuis le 18 mai, on peut voir dans le parcours permanent chronique d'une abbaye, eh bien quelques pièces iconiques de la collection de costumes de scène qui ont été, pour la plupart d'entre eux, créés par Dominique Louis, costumière de théâtre, que nous avons eu la grande joie de retrouver au mois de mars dernier. Et c'est elle qui raconte aussi cette épopée des nuits médiévales qui a duré de 1991. Jusqu'en 2000, largement porté bien sûr par le département de l'Isère et un fonds de plus de 300 pièces. Mais si vous voulez, l'exposition sur un fil ou l'art de se vêtir au Moyen-Âge, c'est une exposition qui convoque près de 70 pièces issues de collections publiques, que ce soit des musées nationaux, que ce soit des musées de région, que ce soit des bibliothèques municipales. Donc vraiment des œuvres magnifiques, dirais-je, et en toute objectivité, vous pourrez les découvrir à partir du 7 juillet et jusqu'au 11 novembre. Ce sont à la fois des manuscrits, de précieux manuscrits, ce sont également des objets d'art, ce sont des peintures, des sculptures. Et bien évidemment, quand on parle de fil et donc d'étoffes, de tissus, eh bien des matières textiles, des fragments de tissus, que ce soit des tissus profanes, que ce soit des suaires, que ce soit des vêtements liturgiques. Et on a la chance d'avoir dans l'exposition, par exemple, un tabard. Un tabard, c'est une sorte de dalmatique, de tunique à manches, qui pour le coup est profane et qui a été portée par les héros d'armes pour accompagner les entrées solennelles de ville de leur puissant seigneur ou pour célébrer tout simplement un événement important. Et c'est le cas pour celui qui est présenté dans l'exposition, qui date du XVIe siècle et qui est un prêt du musée des tissus de Lyon. Donc là, c'était vraisemblablement, il faisait le lien, dirais-je, avec le mariage de François II, duc de Mantoue. Donc c'est une pièce italienne, mais qui, par certains aspects, rappelle certains vêtements orientaux. J'ai envie de dire aussi que cette exposition s'inscrit dans un continuum depuis l'exposition Chemin d'étoiles, reliques et pèlerinages au Moyen-Âge, que nous avions inaugurée, en tout cas proposée en 2019 à l'occasion du 9e centenaire de la dédicace du 2e sanctuaire de Saint-Antoine. L'histoire est quand même extrêmement riche. Et donc l'idée, c'était de remettre en perspective aussi ce qu'étaient ces reliques textiles. Sont-elles aussi et forcément issues du monde profane à partir du moment où elles ne sont pas encore en contact avec le corps d'un saint qui n'est pas encore saint de son vivant, ou ses reliques. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de remettre en perspective tout cela. Et c'est vrai que cela nous rappelle aussi que les textes parlent de la vêture, en quelque sorte, du vêtement de saint Antoine, notamment Athanase en parle, c'est son biographe au IVe siècle, je le reprécise pour les auditeurs, ou encore, par exemple, une ostension de reliques et des procès-verbaux qui succèdent à ces ouvertures de chasse reliquaire au XVe siècle, où il est dit très clairement, qu'est conservée dans cette chasse reliquaire une dalmatique qui a permis, de protéger le corps de saint Antoine. Voilà. Et donc, c'est à partir de toute cette histoire-là que l'idée nous est venue de parler aussi de l'importance du vêtement. Alors, vêtement, l'étymologie, c'est vestiment, et c'est une étymologie quand même relativement ancienne, qui apparaît notamment dans les textes, au 10e, 11e siècle. Ce que signifie le vêtement, ce qu'il veut dire du personnage qui le porte, de ses qualités morales, du héros, notamment dans les textes littéraires. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut savoir qu'à l'époque, près de 80 à 90% de la population était, plutôt dans un contexte lié au monde agricole, tout simplement, donc issu des, aujourd'hui, des classes populaires, en tout cas ouvrières et travailleuses, et que 10 à 20% étaient, bien évidemment, l'élite. Voilà. Et ce qu'il nous reste aujourd'hui de ces fragments de tissus, ce sont à la fois, effectivement, des suaires, des éléments textiles ayant été en contact avec le corps d'un saint ou les reliques de ce dernier, ou alors des pièces de soie, des lampas notamment en provenance de Toscane. Luc, Florence étaient des grands centres de production d'étoffes de soie à partir notamment du XIIIe siècle et vont en quelque sorte supplanter Palerme qui en avait la suprématie depuis le IXe siècle. Donc c'est aussi toute cette histoire. La forme aussi, la mode apparaît au XIIIe siècle véritablement. On est dans une période de prospérité relative et surtout on voit émerger une nouvelle classe sociale, on dirait aujourd'hui la classe moyenne supérieure, c'est la bourgeoisie marchande. Donc ce sont effectivement des marchands qui vont s'enrichir grâce notamment, mais pas que, au commerce des étoffes. Donc c'est à ce moment-là que les grandes foires de Champagne sont à leur apogée, que les marchands se côtoient, échangent, y compris des coutumes, y compris parce qu'ils viennent d'autres horizons, y compris bien évidemment de ce que l'on appellera la mode. On parle par exemple des fameuses houppelandes, c'était ces longs manteaux, souvent de drap de laine, de brocart, etc., voire de soie, lorsque l'on était bien évidemment un roi ou un prince et qu'on avait les moyens de s'offrir ces étoffes-là, et surtout de faire appel à un maître tailleur, puisqu'il faut bien imaginer, bien sûr, qu'on n'était pas dans des boutiques qui permettaient de choisir dans la taille et dans la forme un vêtement. Voilà, on choisissait une étoffe, sa couleur, quand on avait droit d'utiliser cette couleur, et ensuite on faisait confectionner le tout par un maître tailleur. Donc c'est dire le prix aussi des choses. Et tout ça pour dire que, effectivement, ces marchands et l'élite, bien évidemment, aristocratique, par le biais d'échanges, ont pu introduire en Europe et de cours en cours, de région en région, des modes. Tout le monde connaît ou presque depuis le film Les Visiteurs, les fameuses poulaines qui étaient ces chaussures extrêmement pointues et que le cinéma a donné à voir d'une autre manière. Mais ces poulaines, ce sont tout simplement des chaussures à la mode de Pologne, d'où le nom poulaine. Les manches à déchiquetures, ces grandes houppelandes avec ces manches qui semblent déchirées, c'est aussi une mode qui vient d'Allemagne. Voilà. Le balzo était une coiffe portée par les femmes à la fin du Moyen Âge, extrêmement volumineuse, excentrique, et qui était d'origine italienne, etc., etc. Donc on a effectivement une mode qui commence à arriver plutôt au XIIIe siècle. Avant, on est plutôt dans une tradition héritée de l'Antiquité. Avec pour les femmes ces longues chemises côtes, qui recouvrent bien évidemment les chevilles, on ne montrait pas ces chevilles, et qui étaient faites d'un tissu plus ou moins lourd, plus ou moins précieux, en tout cas qui soulignait quand même les formes féminines, héritées de l'Antiquité, y compris pour les manteaux, que l'on appelle mantelles, qui s'agrafaient sur les épaules. Donc on a cette tradition avec une évolution des formes, y compris dans les coiffes, et au XIIIe siècle, grâce à ces échanges commerciaux, Bon, beaucoup de voyageurs, on pense à Marco Polo au XIIIe siècle, hein, qui est allé dans l'Empire du Milieu et qui, à la cour de Kubilai Khan, eh bien, rapporte à la fois l'art, eh bien, tout simplement, de tisser ces fils de soie si précieux, si coûteux. Et tout cela arrive par Venise. Lui-même était vénitien.
Alors, une certaine représentation de ce que vous venez de nous décrire, Géraldine Mosselin, avec des pièces qui ont été justement disposées dans l'espace muséal, qui donne l'éventail global de toute cette aventure du tissu. On pourrait dire.
Oui, tout à fait. Et puis, l'idée était aussi, et ça, c'est ce que je souhaitais, faire le lien, parce que le lien est forcément intime et intrinsèque et évident entre le corps et le vêtement, que l'on appelle d'ailleurs aussi garnement au Moyen-Âge. Il faut savoir qu'on pouvait avoir 6 vêtements superposés. Bon, je parle de l'élite, bien évidemment. Pour la classe paysanne, c'était plutôt la chemise, la cotte, et parfois un corset pour les femmes. Mais voilà, donc le vêtement est essentiel. Notre premier vêtement, eh bien, c'est tout simplement la chair, c'est tout simplement la peau, dirais-je. Et le premier vêtement, finalement, dans la Bible, c'est la feuille de figuier que Adam et Ève porteront très rapidement pour masquer leur nudité. Donc, le corps et le vêtement ne font qu'un. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'on a un vocabulaire commun entre les deux, c'est-à-dire qu'on parle de fibres, on parle de trames, on parle de tissus. Voilà, donc c'est aussi un vocabulaire commun. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et c'est la raison pour laquelle chacune des séquences, il y en a 4, associe le corps à autre chose. Par exemple, la première séquence, le corps du récit à travers les textes littéraires, j'en parlais tout à l'heure, ce que nous disent ces textes, ce qu'ils nous montrent à voir du vêtement à travers les âges et aussi, bien évidemment, le code vestimentaire s'il en est et la symbolique qui lui est associée. Deuxième partie de l'exposition et donc dans ce parcours, le corps en scène, comment on se montre finalement et ce que l'iconographie révèle et dit aussi du personnage et d'un contexte géopolitique presque de l'époque. Ensuite, troisième partie, le corps marchand, j'en parlais tout à l'heure avec bien sûr cette bourgeoisie marchande, tous les métiers associés à l'activité drapière qui étaient prédominante au Moyen-Âge, énormément de métiers qui sont réglementés, donc il y a un règlement, il y a des statuts, des corps de métiers, des corporations, etc. Tout ça est extrêmement bien, on va dire, orchestré et aussi surveillé par les édiles, qu'elles soient municipales ou que ce soit le roi lui-même. Et enfin, quatrième séquence, le corps tramé, c'est-à-dire cette trame, ce vêtement qui dévoile ou au contraire qui protège, qui recouvre. Et là, on a une demi-armure composite prêtée par le musée de l'armée de toute beauté. Voilà, mais pas seulement. Il y a aussi effectivement des reliques textiles et ce transfert d'usage de délicates aumônières profanes qu'on portait à la ceinture et qui deviennent des bourses à reliques au gré d'un usage qui est quelque peu différent. Et je veux aussi indiquer que dans l'exposition, et Lola Graia en parlera aussi de manière plus développée, nous avons souhaité des haltes qui sont des haltes de médiation. Car quand on parle de tissu, on a envie de toucher. Alors on ne va pas toucher bien évidemment une chasuble du XIVe siècle ou un gilet en soie recouvert, enfin brodé de filets métalliques du XVIe siècle, mais on va pouvoir toucher des étoffes qui s'en approchent en quelque sorte. Et puis il y a quelques petites devinettes aussi dans l'exposition sur ce que l'on touche sans forcément voir. Et puis bien sûr, il y a un vestiaire, parce que vous l'avez dit aussi en introduction, le musée participe chaque année à la grande fête médiévale organisée par Saint-Antoine Développement, et là, nos visiteurs pourront s'amuser à se costumer, se vêtir d'une huque, d'une houppelande ou encore d'un chaperon. Voilà, tout un vocabulaire aussi en perspective, et un vocabulaire qui est incroyable pour décrire l'acte de se vêtir comme pour décrire le vêtement lui-même. Voilà. Et je voudrais saluer Déjà, c'est une belle performance, hein. Depuis la conception de l'exposition jusqu'à sa mise en œuvre et sa présentation au public et l'accompagnement qui en sera fait. Saluer le travail de toute l'équipe qui m'accompagne, ça c'est important de le dire, c'est aussi un travail d'équipe, je le souligne régulièrement. Et puis aussi saluer le travail qui a été réalisé par la scénographe Émilie M. Picard-Bouquin, atelier Six Sense, et la graphiste Alban de Rennes, et aussi évoquer le travail magnifique, parce que l'idée c'était aussi d'ouvrir à la création contemporaine cet espace. Et donc Frédéric Yvan Manuel Gay propose en fin de parcours, c'est un peu la cerise sur le gâteau, un très beau flabellum, donc cet éventail liturgique qui remonte à l'Antiquité, il faut bien le dire, qui est une création pour le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye.
Eh bien, merci beaucoup Géraldine Mosselin pour la présentation de cette exposition qui ne reste qu'à être découverte, hein, avec ses couleurs, ses codes. C'était un monde très florissant finalement à cette époque-là, au niveau du tissu représenté.
Oui, pas seulement. En fait, on a tendance et on a tort de penser ou de dire que le Moyen-Âge est une période très longue de l'histoire, 1000 ans, hein, sombre, sale, glauque, violente, etc. Oui, il y a eu des épidémies. Enfin, il y en a eu une dans notre monde contemporain il n'y a pas très longtemps. Et il y avait aussi une forme, on va dire, de violence dans le fait que l'on était tous isolés les uns des autres, plus bien évidemment tout ce que cela a entraîné en termes de pertes humaines. Mais oui, il y avait effectivement des épidémies, on pense à la peste noire, il y a eu des guerres d'une violence inouïe, des guerres de conquête, de pouvoir. Mais c'est un monde qui est coloré, qui a apporté beaucoup, qui, sur le plan de la littérature, sur le plan de la culture, des arts également, et avec, c'est un monde aussi en couleur, et non pas en noir et blanc, dirais-je, quoique le noir et le blanc étaient au Moyen-Âge très prisés, car très difficiles à obtenir. Donc finalement, quelque part, on s'y retrouve. Mais oui, la couleur joue un rôle essentiel, bien évidemment.
Merci beaucoup pour ces explications. Eh bien, on retrouve cette exposition assez largement durant cet été, et voire même à l'automne.
Oui, tout à fait, jusqu'au 11 novembre, donc tous les jours, sauf le mardi. Le musée est gratuit, comme tous les musées faisant partie du réseau du département de l'Isère et pour tous.
Et puis ça peut donner aussi un point de conduite pour découvrir les autres aspects vestimentaires ou de tissus portés par les autres musées, chacun peut sa spécificité dans ce cadre, dans cette opération.
Oui, tout à fait. Ça va du 19e au début du 20e. On est à la fois au spectacle, aussi 18e siècle. Oui, il ne faut pas que j'oublie le costume sous la Révolution. Donc là, au musée de la Révolution française à Vizy, Bergès, donc c'est plutôt le spectacle. Et Hébert, c'est tout autre chose. Hein. On est dans la mode au temps d'Ernest Hébert, etc., etc. Donc oui, il y a beaucoup de choses à voir dans les musées départementaux, mais pas que. Aussi dans d'autres musées qui participent à l'opération Déshabillez-nous.